Auditions à toutes, cette semaine sous mon olivier, j'ai lu pour vous Le Petit Bâtard de Mireille Puchard aux éditions de Boré. L'auteur habite dans le Gard, le goût d'écrire lui est venu lors de ses recherches généalogiques. Naît alors une trilogie, la saga des Tessiers, avec trois romans, Le Trésor d'or, Les Diamants noirs et Un parfum d'amour éternel, narrant la vie de sept générations de ses ancêtres. Passionné de grandes histoires, mais aussi de petites histoires, Mireille Dumas brosse des portraits de personnages attachants et sait entraîner le lecteur dans des intrigues palpitantes. C'est le cas de son dernier titre, Le Petit Bâtard, qui prend la suite de plus d'une vingtaine d'autres. La famille Chardonnon vit dans un petit village des Hautes-Cévennes lozériennes. On est au mois de décembre 1826, les jours s'étiolent, en cette fin d'automne qui a amené à la fois neige, vent et frimas. Julie Chardonnon, les reins douloureux, le dos courbaturé, imprime à son rouet des mouvements réguliers de sa jambe mordue de crampes. La fileuse attend patiemment qu'une de ses filles vienne la relayer. Denise, son aînée, n'est qu'une bouche à nourrir, seulement bonne à porter les bûches pour le feu, victime de son handicap. Elle est une punition du ciel pour son père, Pierre Chardonnon, pas méchant homme, mais buté dans son orgueil de paysan sans dette, mais sans richesse non plus, malgré son dur labeur. Denise a été reléguée au rayon des objets encombrants dès l'arrivée de son frère Jean, bébé robuste et rigoureux. Après Jean, il y a eu Estelle, puis Émilie. Clarisse avait vu ensuite arrivaient les frères jumeaux Joseph et Victor qui finirent d'épuiser Julie. Elle avait 46 ans quand arriva Juliette, la petite dernière. Les baptêmes se succédaient ainsi auprès du curé du village, le jovial père Pradel. Étienne, le frère de Pierre, est alors maire de la commune. Dans la famille, personne ne sait très bien ce que signifie le mot bonheur. Les quelques joies sont simples et fugitives, et on ne s'attarde pas à les savourer. Les peines ne manquent pas, mais il faut vite faire semblant de les oublier. La misère est grande, et les terres de peu de rendement en ce pays de Gévaudan, plus encore que partout en France. Les filles, dès leur 10e année, sont placées dans de grandes masses ou des domaines pour y faire une éducation, soit une culture de verre à soie. Logées et nourries dans ces grandes fermes, où de la mi-avril à la fin juin, elles accomplissent un travail harassant, elles s'en retournent chez elles pour la fenaison, avec dans leur poche quelques monnaies que le père encaisse avidement. La transhumance des filles de Lozère commence ainsi dès les premiers jours d'avril. Logées précairement au cœur même des magnaneries, toute une ribambelle de jeunes filles vont vivre le temps d'une éducation dans les vieux murs de pierre baignés de soleil. Il faut nourrir les verres à soie 4 fois par jour d'une feuille bien fraîche qu'il faut d'abord récolter. Il faut aussi changer les litières et surveiller les maladies qui guettent les maniants, non local des verres. Il faut ensuite récolter et transporter les rameaux de bruyère sur lesquels les verres vont se percher et se transformer en chrysalide. Puis vient le ramassage et le tri des cocons. Ceux-ci partent enfin en filature et les jeunes filles s'en retournent chez elles, munies d'une pomme et d'un quignon de pain pour leur longue route. La mère malade, Clarisse doit aider à la ferme et filer la laine. Dans l'attente de la guérison, le temps passe trop vite et elle ne peut retourner l'année suivante dans le mas habituel. Elle trouve pour seul élevage une grande maison en Cévennes, chez les Huguenots. Le père n'aimait pas ces gens hostiles à la Sainte Vierge. Mais il n'y a plus le choix et on ne peut refuser cet argent nécessaire à la famille. L'adolescente va découvrir ses nouveaux patrons de la magnanerie Blanchon-Troupé, Mademoiselle Henriette, la gouvernante, au pouvoir délégué par les propriétaires, juge que Clarisse sera mieux en cuisine pour nourrir tous les employés. Elle touchera pour cela le même salaire promis pour travailler à l'élevage. Alors que Clarisse chute dans le couloir, Un jeune homme bien bâti, au visage avenant, au regard plein de charme saupoudré de malice, lui tend une main secourable. C'est Monsieur Jean, le fils de la maison. Le premier regard est fatidique. Toutes les hésitations passées, arrive le premier baiser et un peu plus tard, la première relation. 16 ans, c'est bien jeune, mais Monsieur Jean fait des promesses qui, comme d'habitude, n'engagent que ceux qui les croient. La saison finie, c'est le retour à la ferme en Lozère. Mais Clarisse a été transformée par cette aventure. Transformée au point de mettre au monde, quelques mois plus tard, un beau bébé. Il avait fallu l'annoncer aux parents dès qu'il ne fut plus possible de cacher la grossesse. Pour des paysans de Lozère, à cette époque, la situation n'est pas acceptable. Clarisse doit rester cachée jusqu'à la naissance. Le père l'a fermement décidé. Le bébé sera confié à l'orphelinat. La jeune fille ne l'entend pas ainsi et profite d'une absence des parents pour fuir, amenant avec elle son seul bébé, sans même un bout de pain pour s'élancer sans autre but que de fuir sur les chemins enneigés, qui plus est sous la tempête de neige. Les nuits sont glaciales pour coucher dehors sans manger, en allaitant un nourrisson. Le couvent accueille le couple lui sauvant la vie, mais la contrepartie religieuse est la privation de liberté. La mère sera religieuse et le bébé encore menacé d'orphelinat. Il faut à nouveau partir. Je ne fais que vous ébaucher l'histoire. Elle est longue, semée d'embûches, mais aussi de bons sentiments. Ce roman est fait de longues et précises descriptions, à la fois de la rude vie dans cette montagne où l'existence peut être sans concession, mais aussi du métier d'éleveur de fer à soie. Le tout est en plus semé d'expressions en occitan lozérien, tout un vocabulaire local traduit en notes qui fait de ce texte une véritable collette ethnographique. Bonne lecture, à la semaine au Québec.